On est en studio avec Caroline sur Radio Panique. Bonjour Caroline.
Bonjour Pierre.
Caroline Berliner, donc, qui a réalisé Être, Venir, Aller, qu'on vient d'entendre, qui vient d'une certaine façon compléter des émissions que peut-être vous aviez aussi entendues sur Radio Panique, qui était Radio Passe-Partout. Caroline, comment est-ce que ça s'est articulé? Il y avait dès le départ l'idée de faire les deux projets radio.
Voilà, c'est-à-dire à la base, l'idée était que... Donc je voulais travailler avec les MENA, les mineurs étrangers non accompagnés du Petit Château, que j'avais rencontré un été où j'étais allée donner des cours de français bénévolement deux soirs par semaine, et j'avais rencontré la vingtaine de jeunes qui séjournaient là-bas, et j'ai eu envie de faire un projet sur ce parcours très spécifique qui est celui des mineurs étrangers non accompagnés. Comme on le dit dans le documentaire, les MENA ont droit à l'accueil inconditionnel jusqu'à leur majorité, mais c'est un droit qu'ils perdent à partir du jour où ils ont 18 ans. Et j'avais... ce qui était compliqué pour moi, c'était de les suivre comme des personnages, comme des sujets. J'avais envie qu'on crée le projet ensemble, aussi parce qu'à ce moment-là, j'écoutais beaucoup les travaux d'un philosophe qui s'appelle Étienne Tassin, qui a malheureusement disparu il y a un an et demi, qui est un philosophe qui a travaillé avec une collègue, Camille Louis, où ils sont allés à Calais tous les deux, et ils ont ouvert un séminaire de philosophie, travaillaient pour l'université de Paris 8 à ce moment-là, et ils sont allés à Calais avec les étudiants en philo, et ils ont mis en lumière le fait que dans cette jungle, ce qui était amené par les migrants était beaucoup plus porteur d'hospitalité, de création, de narration, de vivre ensemble que ce que la ville de Calais proposait elle-même. Et donc, il me semblait que d'essayer de chercher la manière de faire ensemble quelque chose pouvait aussi être une métaphore de ce qu'on ne vit pas assez. Le téléphone sonne, mais c'est pas pour nous.
Non, c'est pas pour nous.
D'accord. De ce qu'on pourrait arriver à essayer de faire ensemble qui n'a pas assez lieu, qui n'existe pas assez autour de nous aujourd'hui. Donc effectivement, j'ai essayé de trouver un moyen pour qu'on travaille ensemble, et donc on est venu, on a fait 5 émissions Radio Passe-Partout pendant un an, accompagnées grâce à Radio Panique. Je suis très contente d'être dans les studios de Panique aujourd'hui avec toi pour reparler de ce projet, parce que c'est vraiment ici que tout a commencé, que mon lien avec les jeunes s'est construit, que on a avancé à l'aveugle, et c'est ici, ça a été des vrais points de repère et des balises, quoi, du projet.
Voilà. Et du coup, il y avait l'envie aussi qui... Bon, il y avait Radio Passe-Partout, que tu faisais avec les jeunes, mais tu voulais aussi qu'ils aient leur mot à dire sur l'autre forme, la forme plus documentaire, Être, Venir, Aller.
Exactement. Donc c'était, si tu veux... En fait, on travaillait pendant des ateliers avec les jeunes, à chaque fois pendant une semaine ou 8 jours, où j'allais à chaque fois là-bas sur un temps donné avec soit Jeanne de Barcy, soit Corinne Dubien, qui travaillait avec moi sur ça. Et donc, quand j'allais là-bas, le micro était tout le temps ouvert et disponible entre eux et moi. Enfin, c'est-à-dire, c'était quelque chose qu'on pouvait se passer. Et donc, effectivement, tout ce qui avait à voir plutôt avec l'intimité de leur parcours à chacun, c'était quelque chose qu'on diffusait pas dans les émissions Radio Passe-Partout, mais qui faisait partie de notre relation, et puis que j'ai pris moi le temps de dérocher pour comprendre quels étaient vraiment les enjeux des uns et des autres pendant ce parcours, ce moment où chacun d'entre eux passe de ses 17 à 18 ans, quoi.
Voilà. Dans la façon dont tout ça est monté, tu gardes une sorte de parallèle avec un autre fil rouge qui est en gros celui de la vie politique belge, et ça donne un contraste assez saisissant évidemment entre la place que les migrants et les réfugiés prennent dans les débats politiques, qui est une place vraiment importante. Et le fait que pour finir, on parle très très peu de ce que c'est, de la réalité de la vie des réfugiés, de leur vie quotidienne, de comment ça se passe pour eux et pour les gens qui travaillent avec eux, que ça, pour finir, c'est complètement absent d'habitude des médias.
Tout à fait.
Où on a simplement des gens qui prennent des positions de matador et qui font des déclarations tonitruantes dans un sens ou dans un autre d'ailleurs. Mais par contre, voilà, si on se contente de ce qu'il y a dans les médias, ce qui fait le réel de la situation est totalement absent. Et les avoir ici en parallèle est assez saisissant.
Oui, en fait, si tu veux, ce dont je me suis rendu compte à la fin, c'est-à-dire ça m'a pris du temps pour comprendre de quoi ce projet parlait, en fait. Enfin, c'est-à-dire, effectivement, ça témoigne d'une réalité qu'on entend peu. Il y a une immersion dans cette vie avec eux. C'est leur portrait à chacun. Mais ce que j'ai compris que le projet racontait politiquement après, c'était que, effectivement, il y a un bruit constant autour des questions migratoires. Et je me suis demandé à quel point ce bruit était nécessaire ou pas au débat, enfin je veux dire à ce qui nous occupe nous en tant que citoyens, enfin, c'est-à-dire que cette question prend toute la place du débat politique. Pourquoi? Enfin, pourquoi est-ce qu'elle prend autant de place? Et ce qui m'a interpellée, c'est que je me suis rendu compte que les demandeurs d'asile en Belgique sont tenus à dire la vérité sur qui ils sont. Il n'y a que comme ça qu'ils peuvent obtenir ce statut de réfugié. C'est au cours d'un récit qui va être analysé par des commissaires qui dépendent de l'Office des étrangers et donc du ministère de l'immigration, où ils doivent raconter la vérité sur eux-mêmes. Et je me suis rendu compte après le projet que même si j'avais passé un temps très long auprès de ces jeunes gens, je ne connaissais pas leur vie, qu'en fait, il y avait toute une partie d'eux dont on n'avait jamais parlé. Et je me suis dit, c'est curieux quand même, cette injonction qu'on fait à certaines personnes de dire la vérité sur eux-mêmes, pendant que il y a un discours médiatique qui se construit, dont on nous dit aussi qu'il est la vérité sur une certaine qu'on nous présente un état des lieux auquel on doit croire, mais en quoi est-ce qu'il est vrai, en quoi est-ce qu'il est faux, pourquoi est-ce que certaines personnes ont le droit de dire des mensonges et pas d'autres, ces questions-là et l'idée de me dire ça a eu lieu sur un temps donné où au final, au moment où je terminais le montage, le gouvernement était tombé, enfin on était dans un vide politique et dans une béance. Pourquoi en fait?
Est-ce que ce projet va connaître des suites?
C'est-à-dire?
Je ne sais pas, peut-être une nouvelle saison de Radio Passepartout ou d'autres travaux avec les mêmes personnages avec qui j'imagine tu restes en contact.
Ouais, alors pour l'instant, en fait, ce qui est. Bon, c'est je pense que Mazina, qu'on entend beaucoup dans le documentaire, qui au moment où je l'ai réalisé avait effectivement disparu et je ne savais pas où elle était, a finalement été ramenée vers la Belgique à cause des accords de Berlin, juste techniquement, en gros, quand un demandeur d'asile demande l'asile dans un pays européen, il n'a pas le droit de faire une autre demande dans un autre pays, donc. Malgré qu'elle ait tenté cette chose-là, elle n'a pas pu. Elle est maintenant ici en Belgique, de nouveau dans un centre fait d'asile, mais en dehors de Bruxelles. Et elle retente le coup. Je crois qu'elle a très très envie de faire de la radio. Et donc effectivement, je suis en train d'essayer de voir comment est-ce que, à un niveau plus individuel avec elle, en tout cas, comment est-ce que des radios, enfin voilà, comment est-ce qu'elle pourrait revenir à Radio Panique, lui passer un zoom pour témoigner un peu de sa vie à elle. Mais si tu veux, en tout cas avec les MENA, ce qui a permis au projet d'avoir lieu, c'était aussi cette unité de lieu qu'était le petit château. C'était ce centre dans lequel j'avais créé des liens avec les assistants sociaux, les éducateurs, etc., qui a permis au projet d'exister. Et malheureusement, comme il n'y a plus de structure, en tout cas, dédiée au MENA à Bruxelles, pour l'instant, c'est en pause. Mais pourquoi pas à réfléchir ailleurs. Voilà. Je pense que j'avais besoin aussi un peu de temps de faire le docu, de mettre d'acter quelque chose avec tout ça, et puis après d'y réfléchir, quoi.
Ouais. Oui, puis c'est dur, quand même, Déjà, l'écouter, c'est dur, le faire, j'imagine, voilà. C'est bien plus dur.
Ouais.
Y a un truc qui m'a frappé aussi, c'est la notion du temps. Bon ben voilà, ça dure 50 minutes, c'est long et pas long à la fois. C'est long par rapport à un petit reportage de radio, mais en fait, c'est pas très long. Mais avec cette durée, tu parviens à quand même donner une notion du temps, de ces temps très très longs. Dans des situations difficiles, des attentes de décision, des périodes de rien qui peuvent exister dans toutes ces procédures. J'imagine que c'est une question à laquelle t'as réfléchi aussi sur comment faire passer ces durées en radio.
Ouais, en fait, à la base, on pensait que le documentaire allait durer plus longtemps. Que ce serait peut-être en deux parties. Enfin, dans les premières versions de montage, on était parti sur quelque chose comme ça. Et finalement, ça s'est resserré autour de... Parce que c'est vrai qu'il y a à la fois un temps long qui passe, mais en même temps, il s'articule autour d'un point de bascule, qui est le passage à la majorité. Donc, c'est quand même rassemblé autour d'un moment, quoi. Et en même temps, oui, c'est peut-être la voix off qui aide à faire ça, mais ça me semblait possible de rassembler tout ça autour de ce temps que moi j'avais passé, enfin du temps passé auprès d'eux. Et c'est vrai que tout ce qui nous permettait les séquences, par exemple. Clairement, certaines radios ne vont pas diffuser ce documentaire parce qu'il y a des séquences d'immersion, parce qu'on est dans un temps de narration qui n'est pas celui du rythme habituel d'un reportage, mais que je crois, oui, peut-être c'est tout ça qui permet de sentir ce temps qui passe. Et effectivement, l'attente était un des motifs avec lesquels on a composé le montage, quoi. C'était important de sentir. De sentir comment ça tourne à la fois sur soi-même, il y a comme un labyrinthe, il y a où sont les issues temporelles, où sont les issues administratives, tout ça ça faisait partie des éléments avec lesquels on a évidemment travaillé.
Maintenant que le documentaire est terminé et que j'imagine il a déjà été entendu par pas mal de monde, est-ce qu'il suscite des réactions?
Écoute, il suscite des réactions. Je crois que il suscite quand même, de ce que j'ai pu voir autour de moi, il suscite quand même de l'indignation et un sentiment un peu de c'est-à-dire qu'il y a un arbitraire. Je pense que le documentaire montre de l'arbitraire et de l'injustice aussi. Et que les personnes qui l'écoutent ressentent ça. Enfin, et donc là, je suis en train de travailler, oui, avec différents partenaires comme le CNCD 11-11-11 et le CIRÉ, pour que le délégué général aux droits de l'enfant, pour que ce projet trouve une vie à la fois dans le réseau radio, avec la CSR, bien sûr, le Grain des Choses aussi, qui est un nouveau site de podcast que tu connais peut-être. Mais que le travail puisse aussi être écouté par des jeunes gens qui ont 17 ans, mais qui sont pas migrants, qui ne sont pas, enfin, qui donc pour eux devenir majeurs, c'est juste une étape en plus dans leur chemin. Enfin, oui, donc en tout cas, moi j'ai très envie que ça devienne un objet à la fois de discussion, d'échange et de se rendre compte que. Enfin, moi, ça m'a aussi fait très fort penser à mes 17 ans, quoi, quand je travaillais avec eux, sur tout ce que ça voulait dire de finir mon école secondaire, d'entrer à l'université, de choisir mes études, de choisir de rentrer dans une école de théâtre. Enfin, voilà.
En tout cas, il sera aussi disponible en podcast sur le site de Panique. Donc, amis auditrices, amis auditeurs, je vous encourage à le réécouter ou à l'écouter si vous venez de nous rejoindre et que vous ne l'avez pas entendu, et aussi à le partager largement, parce que je pense que ça vaut la peine d'être entendu pour que quand on parle de ces questions politiques, ce ne soient pas des abstractions, mais des êtres humains.
Ouais. Écoute, merci. Ouais, c'est exactement ça. C'est revenir. En tout cas, ce travail, c'était. Je pense qu'aussi ce qui était important pour moi, c'était de montrer comment, en fait, aujourd'hui, les choses sont quand même, on met quand même les gens dans des catégories très spécifiques. Et le documentaire essaie de montrer ça, comment est-ce qu'à un moment donné, on essaye d'abolir ces catégories-là et d'être en lien et de construire du temps, de la relation, du rapport à l'autre. Et voilà. Enfin, en tout cas, c'est ce avec quoi j'ai travaillé pendant un an sur ce projet. Et ben, j'en profite juste pour te remercier, Pierre, et pour remercier toute l'équipe de Panique, et également Jeanne, et Christophe, et Corinne, et puis tous toutes les personnes du Petit Château qui ne travaillent plus maintenant là-bas, mais qui ont permis à toute cette aventure d'avoir eu lieu.
Voilà. Ben, en tout cas, merci à toi, parce que c'est vraiment très très beau. Et ben, on espère te réentendre bientôt sur les antennes de Panique.
Ah ben, j'espère aussi.
Caroline Berliner, donc, merci beaucoup de nous avoir rejoints ce midi.
Avec plaisir. Au revoir.
Bonne journée.